Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Mais là, je vous retrouve à la barre de l'émission Mission Vision. Eh bien oui, c'est ma nouvelle émission. On va être ensemble une fois par semaine. Et c'est un grand bonheur pour moi de chausser ces nouvelles chaussures. Parce que dans le fond, Mission Vision, ben on va parler évidemment d'handicap visuel. Mais qui de mieux qu'une animatrice qui a elle-même un handicap visuel pour venir faire une émission qui va avoir un apport encore plus au niveau de la sensibilisation. Parce que moi-même, je vis avec cette réalité. Et c'est pour ça que dans cette émission, bien, ce que je vais amener, c'est sûr qu'on va parler avec différentes personnes de la communauté, qu'on pourrait dire là, ceux qui ont un handicap visuel, là, donc eux qui vivent avec cette réalité-là, mais pas que ça. Moi, j'ai envie d'amener une sensibilisation à plus grande échelle, ce qui fait que je vais avoir des personnes ici qui vont venir s'asseoir qui n'ont pas d'handicap visuel, parce que j'ai envie d'amener vraiment cette sensibilisation-là et de dire, ben OK, entre nous, on est plusieurs, on a un handicap visuel, on se parle, on se comprend, on sait de quoi qu'on... Tu sais, ah oui, toi, tu vis ça, moi, je vis ça. On le sait, c'est quoi, mais... La journée que je dis, ouais, ben toi, là, t'as pas d'handicap visuel, là, mais OK, qu'est-ce qui se passe si demain matin, tu perds la vue? Tu sais, je veux amener cette sensibilisation-là et jusqu'à date, là, les gens sont vraiment intéressés, là, ils ont envie de venir plonger dans cette discussion qui va être quand même assez profonde et qui peut amener beaucoup de vulnérabilité. Mais c'est ça qui fait que je pense que notre monde va pouvoir être encore plus inclusif, parce que la journée qu'on a, parce que moi, dans mon entourage, ce qui m'a donné l'inspiration, en fait, c'est que j'ai plein de personnes autour de moi qui n'ont pas d'handicap visuel. Et tout d'un coup, ben, des fois, on va vivre des situations. Moi, j'ai l'impression qu'ils comprennent ce que je vis. Puis finalement, ils me disent, ben non, on ne comprend pas, Julie. Mais ils sont vraiment présentes pour moi. Mais ils ne savent pas ce que ça représente pour moi concrètement. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais les amener à venir discuter de ce sujet-là en lien avec elle, avec qu'est-ce que ça serait leur quotidien. Et là, ben c'est pour ça que dans mon émission, je vais aussi être entourée avec des chroniqueurs que j'aime beaucoup. Puis on va pouvoir avoir différents angles aussi de leur côté parce que, ben eux, ils n'ont pas d'handicap visuel. Fait que c'est soit quelque chose que je vais ramener dans cette émission-là. Il va y avoir évidemment des experts. On va parler des ressources qui existent. Il va y avoir tout ça aussi, mais ce petit côté-là, entrevue avec des personnes avec handicap et sans handicap. Et là, ben, tout d'abord, je vais commencer aujourd'hui avec une de mes chroniqueuses que je connais depuis plusieurs années, que j'affectionne particulièrement, et je retrouve Séléna Fortier. Et c'est sûr que comme c'est une première chronique, on l'a adaptée, parce que là, on est en lien avec l'handicap visuel. On va faire une chronique spécialisée on pourrait dire au niveau de l'handicap visuel. Donc, le podcast, des influences, on pourrait dire des inspirations, des trucs qu'elle a écoutés puis qu'elle dit « Ah, ça, je pense que ça pourrait intéresser. » Mais c'est en même temps, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, là, qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas. Le podcast, tout le monde écoute ça, mais c'est de dire que des fois, ben on n'est pas au courant de ce qui existe. Puis, ben Séléna va se faire un plaisir de nous en parler. Je vais faire quand même, évidemment, une petite place au début pour juste qu'elle se présente. Puis ensuite, ben on va plonger dans sa première suggestion. Allô, Séléna?
Allô, Julie, je suis honorée d'être avec toi aujourd'hui. Wow!
Ben moi, je suis vraiment contente qu'on puisse vivre cette aventure-là ensemble. Et là, ben on va faire la petite présentation. Hein? Donc, oui. Qui tu es, Séléna?
Eh bien, je m'appelle Séléna, j'ai 33 ans et un chat.
Oh oui.
Je suis humoriste de la relève. Mm-hmm. Je travaille très fort à trouver mes punchs. Je ne suis pas drôle, mais je veux...
Ben, bon. C'est ça, la relève de la relève. Tu as quand même fait plusieurs soirées là, du
Monde. J'ai fait des open mic. J'ai été sur la scène du Bordel Comedy Club à l'open mic. J'adore faire œuvre utile, parler de sujets de militantisme. J'utilise mon baccalauréat en psychologie et mes années travaillées comme intervenante psychosociale pour justement parler de thèmes qui sont très importants à mes yeux, toujours dans un esprit de militantisme, de féminisme. Le droit et l'accès au logement, ça me tient beaucoup à cœur. Il y a la diversité corporelle qui est très importante. Et surtout, j'adore les podcasts.
Oui. Ben, c'est pour ça, parce que moi, quand je t'ai demandé, je t'attends-tu de faire une chronique podcast, livre audio, puis là, c'est là que tu m'as dit « Ah, podcast! » Fait que j'ai dit « Bon, ben, OK, on va y aller avec ça. » Mais tu sais, je trouve ça intéressant parce que déjà avec ta... Tu sais, oui, il y a la portion humour et tout ça, mais tout ton côté militantisme, le côté que tu vas dire « Ben oui, mais ça, je revendique, ça, je dénonce. » Ben, il y a plein de choses qui sont en lien qu'on peut associer avec, ben, finalement, l'handicap visuel. Parce qu'on le sait qu'au niveau des communautés qui vont avoir des handicaps qui sont plus marginalisées, ben, tu sais, juste comme tu dis, l'accès au logement, ben, c'est déjà un défi supplémentaire qu'on va retrouver au niveau de cette communauté-là.
Oui, je suis très sensible justement à l'inclusion. Puis, justement, avec le podcast d'aujourd'hui, ça m'a fait découvrir à quel point le sens de voir, c'est quelque chose que je prends pour acquis. J'ai très hâte de te partager mon introspection que j'ai faite. Et ce qui m'amène à te parler du podcast que j'ai choisi pour aujourd'hui, qui se nomme Perception, animé par Claudie Mercier, ancienne candidate d'Occupation Double. Et pour remettre en perspective, c'est celle qui s'est exclamée « C'est pas correct de faire ça à un être humain! »
On s'en rappelle.
Oui, et j'ai connu Claudie extravertie, beaucoup d'énergie, généreuse, une superbe candidate et aussi un côté réactif qui est tout à fait légitime. Et là, je la redécouvre dans le rôle d'animatrice et j'adore. Sa façon de poser des questions, sa bienveillance, son accueil, sans jugement, on sent vraiment qu'elle a une écoute soutenue. Et dans le podcast numéro 27 sur lequel je vais parler avec toi aujourd'hui, s'intitule « Devenir aveugle à 30 ans » avec Marie-Christine Ricciagnolo.
Oui.
Wow! Coup de cœur professionnel immense pour Marie-Christine.
Est-ce que tu ne connaissais pas avant ça?
J'ai vu passer vite fait un vidéo d'elle de stand-up qui fait de l'humour.
Ben oui, parce que c'est ça. Maintenant, elle aussi a fait de l'humour.
Oui.
Alors qu'il y a un an, c'était pas vraiment dans ses plans. Mais là, elle a commencé ça et elle a même fait une émission là, à la télévision.
Oui, Bestiaire.
Oui, mais quel talent aussi.
Oui, oui, elle a fait à nouveau quel talent. Et oui. Marie-Christine est hilarante.
Ben en fait, elle vient vraiment parler, elle fait finalement c'est comme ça, elle vient dédramatiser l'handicap visuel, parce que dans le fond, c'est vraiment teinté son numéro en lien avec l'handicap visuel.
Exactement. Elle fait preuve d'une grande autodérision et elle explique notamment dans un numéro d'humour pourquoi elle n'a pas de chien guide et c'est du bonbon.
Ah oui?
Oui. Et on l'a aussi pu la voir à Vestiaire sur Tout.tv.
Oui.
Donc, vraiment, plusieurs cordes à son arc, Marie-Christine.
Bien sûr.
Et dans le podcast, on voit, on réalise à quel point elle s'est adaptée à son handicap visuel au quotidien. Et elle donne des exemples concrets, dont, entre autres, sa relation avec la technologie.
OK.
Donc, par exemple, avec son téléphone, tout est vocal.
Oui.
Quand elle veut écouter une émission, elle parle à sa télécommande.
Ben oui, pas le choix, hein?
Oui, ou sinon, ça peut être très, très long, justement. Elle a son assistant Google. Et pour ses messages textes, elle utilise Siri.
Oui.
Et là, je suis curieuse de te demander, Julie, de ton côté, dans ton quotidien, comment ça se passe? Est-ce que la technologie t'aide dans ta communication avec les autres?
Bien, oui. En fait, moi, j'ai pas comme Marie-Christine, parce que Marie-Christine, elle n'a plus du tout de résidu visuel, ce qui veut dire qu'elle a une cécité complète. Elle n'a pas le choix d'utiliser le téléphone avec des commandes vocales, le fameux voice-over là, qu'on appelle. Mais moi, j'utilise pas ça encore parce que comme j'ai un résidu visuel, mon cerveau est pas capable d'aller là. parce que c'est vraiment particulier. Là. C'est comme si tout d'un coup, tu te fais tout dire verbalement. Les applications, ça, tu sais, toc, 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 ça bouge, ça va d'un sens, ça va dans l'autre. Fait qu'on dirait que mon cerveau fait, ben oui, ben là, je le vois, là. Je suis capable de trouver mon application en vert, foncé, je sais où. Fait que j'ai pas du tout le voice-over, mais par contre, j'utilise toutes les adaptations grossissantes. J'utilise énormément les messages audio. Ça aussi, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, autant au niveau du texto qu'au niveau du Messenger. Mais sinon, moi, c'est vraiment au niveau des grosses... tu sais, il faut que ça soit écrit en très, très gros. Le seul problème, par contre, avec ça qui arrive, c'est que souvent, il y a des modèles d'applications qui sont pas adaptés à grossir.
Okay.
Fait que c'est pas rare que je veux exemple, aller sur une application et que là, j'aurai pas, exemple, la fin. Tu sais, quand ils disent, je sais pas, confirmer tel truc, souvent, ça c'est dans le bas, là. Bien, souvent, moi, j'ai pas accès. Fait que je peux pas aller, exemple, à la page suivante, je peux pas confirmer. Fait que là, je dois aller dans mon téléphone. Là, je dois rétrécir le grossissement de mon téléphone pour pouvoir aller sur l'application puis à ce moment-là, l'ajuster. Fait que ça, c'est sûr que c'est des petites choses comme ça qu'on voit que ça peut amener un petit défi, que peut-être que si j'étais juste à l'audio, ben ça serait pas problématique. Mais là, je suis pas prête à être juste avec l'audio.
C'est fascinant à quel point tu parles justement de la technologie qui va venir impacter puis des petits détails comme justement le grossissement d'image et on pense pas à ça quand que on n'a pas le défi justement avec la vue. Fait que c'est fascinant ce que tu me partages.
Oui, puis je fais juste une parenthèse parce que j'écoutais quelque chose cette semaine, puis ça m'a fait un peu pas réagir, mais un peu parce que c'était dans une émission, c'était sûrement un podcast, là, mais là, je pourrais plus dire lequel. Et là, tout d'un coup, ils parlaient entre eux, donc ils n'ont pas d'handicap. Et là, ils disaient qu'il y a des gens qui mettent leur téléphone en plus gros. Ce qui fait que quand, exemple, tu as un message, comme moi, quand je reçois un message, tu écris en gros là, mon Messenger, là, tu sais, ça prend quasiment toute ma page juste pour me dire que j'ai un message. Puis là, il disait comme si, ben là, tu sais, tu mets ton truc en gros, gros, gros. Fait que là, tout le monde va lire ton message. Fait que, tu sais, c'est pas pratique. Puis là, je me dis, ben, c'est même pas un choix, là. Fait que je me disais, quand ils disaient ça, probablement qu'ils n'ont pas pensé que les personnes qui grossissent au maximum, c'est parce qu'ils ont un défi visuel. Sinon, t'as pas besoin de grossir à ce point-là. Oui. Mais là, si tu le grossis, c'est parce que t'as un défi.
C'est intéressant de voir les deux côtés de la médaille.
Ben oui, mais là, c'est pour ça. Mais là, je voyais qu'eux, c'est comme si finalement, ils disaient que, ben non, fais pas ça. Parce que là, il n'y a plus la confidentialité. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de faire ça. Fait que je trouvais ça intéressant. Fait que j'aurais aimé ça, être avec eux pour pouvoir en jaser parce que eux autres, ils riaient de ça. C'est comme si c'était finalement ha ha ha, hi hi hi. Tu sais, fait que c'était comme un peu à la limite de un peu dénigrant.
Ah, oh, je suis désolée que t'aies vécu ça, puis ça
ben,
ramène.
En fait, j'ai vécu ça, c'est parce que j'écoutais.
Oui.
Mais tu sais, c'est qu'il y a des choses comme ça, des fois, qui arrivent, tu sais, qu'eux autres, ils ont pas conscience qu'il y a quelqu'un en dessous de ça qui écoute, qui a un handicap visuel, qui dit, ben voyons.
D'où l'importance de ton émission, de sensibiliser,
exact.
Puis de partager des faits vécus. Et
ces personnes-là, j'ai pris leur nom en note parce que je me suis dit que j'allais leur demander pour venir dans mon émission.
Ben, j'adore ça. Ben oui, d'ouvrir le dialogue, c'est excellent.
Oui.
Et parlant de sensibilisation, j'ai toujours eu connaissance qu'il existe des feux sonores, sauf que j'avais pas conscience à quel point c'est primordial pour une personne non-voyante. Et Marie-Christine en parle justement.
Mais il y en a très peu, hein?
Oui, justement, que c'est ce qu'elle dit, que c'est pas partout.
Non.
Puis aussi, commander au restaurant, faire son épicerie, choisir ses légumes.
Mm-hmm.
Hey, choisir mes légumes, là, j'ai de la misère, même si je vois. Imagine.
Mais si tu vois pas.
Ben c'est ça.
Fait que tu fais quoi? Faut t'étaler?
C'est ça, c'est un défi, là.
Ben oui. Fait que c'est pour ça que, tu sais, tout ça, c'est là que je trouve ça intéressant parce que là, même toi, ça te ramène à avoir des réflexions. Puis dire, finalement, ton quotidien, en ce moment, il est un petit peu plus simple.
Exactement. Puis c'est là que je vois justement que toutes les choses banales, ben ça devient des enjeux et des adaptations.
Mm-hmm.
Et Marie-Christine Ricciagnolo sa résilience, c'est grandiose. Et je mentionne aussi que le podcast Perception numéro 27 a été enregistré il y a 2 ans. Donc, j'aime voir il y a 2 ans comment elle partage son vécu. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, de voir où elle est rendue.
Mm-hmm.
Et ce qui m'amène à te parler de son livre « Ma vie dans le noir ».
Oui.
J'ai dévoré ce livre.
Oui.
Ah, et juste avant, je me permets une légère critique sur le podcast Perception de Claudie.
Ouais,
ouais. Ben oui, une gentille critique, là.
Vas-y, vas-y.
Dans l'épisode, Claudie mentionne qu'elle n'a pas lu le livre Ma vie dans le noir.
Okay.
Sauf qu'elle le met en lumière, son livre, à plusieurs moments en invitant les gens à le découvrir. Donc, quand on reçoit un invité à un podcast, je trouve que c'est quand même un velours de prendre le temps de lire son livre pour mettre les questions davantage en profondeur.
Mm-hmm.
C'était ma critique.
Ben, je comprends parce que là, tu sais, toi, tu dis que ben, tu l'as lu, donc tu es plus en mesure aussi de pouvoir en parler que juste de prendre le résumé en arrière et de dire « voici le livre ». Là, au moins, tu l'as lu et tu peux vraiment plus expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là.
Et voilà. Et ce livre qui se lit très bien avec des magnifiques photos à l'intérieur,
mm-hmm.
dont une photo sans ses lunettes de soleil. Et Marie-Christine est sublime. Sa personnalité dégage tellement quelque chose de fabuleux. Et là, je dis ça en virtuel, là, donc j'imagine même pas en personne. Et dans son livre qui a été écrit avec Jean-Yves Gérard, le grand journaliste, et il y a aussi la version audio qu'on peut découvrir, qui est avec le comédien Patrick Chouinard.
Oui.
Et là, je me suis dit que pour aujourd'hui, j'aurais pu faire la chronique avec un foulard sur les yeux.
Bien, en fait, c'est drôle parce que là, au début, tu dis « Ah, tu sais, pas tellement des livres audio, j'en écoute pas vraiment. » Puis là, finalement, tu nous amènes puis tu nous fais une petite parenthèse avec un livre audio. Je trouve ça très intéressant.
Sauf que là, j'ai réalisé que si je faisais la chronique d'aujourd'hui avec un bandeau sur les yeux...
Oui, tu pourrais pas lire ta feuille.
Bien, c'est ça, il aurait fallu que j'apprenne ma chronique par cœur.
Oui.
Il aurait fallu que je lise le livre audio. Et là,
que tu l'écoutes.
Oui.
Bien, on est habitué, on dit souvent ça, là, mais oui.
Oui, j'ai fait.
De l'écouter.
Oui, écouter un livre audio.
Oui.
Et j'ai mis des post-it dans le livre pour vous partager des segments. Fait que là, je me dis, il aurait fallu que je l'apprenne par cœur.
Oui.
C'est tous des détails auxquels c'est pas un réflexe de penser et je suis en admiration devant les personnes qui ont un handicap visuel.
Oui.
Là, Julie, je t'ai déjà dit tellement de fois que je t'admire, là, tu le sais déjà.
Oui. Mais tu sais, pour les auditeurs, eux autres sont pas au courant de ton amour. Comment tu me vénères.
Je t'admire, Julie. Et j'ai envie de te partager 2 extraits du livre qui m'ont marquée. Est-ce que t'es prête?
Ben oui, je suis prête.
On se transpose dans un moment où Marie-Christine a 24 ans. Donc, tout va bien et elle a sa vue à ce moment-là. Automne 2012. Marie-Christine a 24 ans. C'est une jeune femme amoureuse qui étudie en administration à l'université, qui s'envolera le prochain printemps pour l'Italie, terreau de ses ancêtres qui caressent le rêve de devenir mère dans un avenir qu'elle souhaite rapprocher. Ce matin, elle rencontre son ophtalmologiste pour son suivi habituel. Elle s'installe pour l'examen, le cœur léger et l'esprit en paix, car ses yeux ne lui causent aucun souci.
Mm-hmm. Puis tu vois, puis je sais exactement parce que on avait le même médecin.
Ah oui?
Oui.
Le monde est petit?
Oui, le monde est petit.
Oh!
J'ai découvert Marie-Christine avant de savoir c'était qui. Je la connaissais parce qu'on avait le même médecin.
Wow!
Oui. Puis quand j'ai eu ce que j'ai eu dans mes yeux, il avait fait un parallèle avec une jeune fille, mais sans savoir que c'était elle, mais finalement, c'est ça, c'était elle. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose qui l'avait touché profondément. Parce que ce médecin-là, ce qu'il me disait, ce qu'il bouleversait complètement, c'est quand il devait annoncer à une jeune femme, tu sais, vraiment pleine, tu sais, dans le début de sa vie, il disait à ce moment-là, il devait tellement se contenir parce que ça l'amenait à vivre des émotions de grande peine. Parce qu'il se retournait, puis il voyait ses enfants, puis il se disait, oh mon Dieu, moi, j'ai tout ça. Puis elle, je dois lui dire que finalement, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Puis c'est Marie-Christine qui l'avait marqué.
C'est donc bien touchant ce que tu me partages. Puis, ce qui m'amène justement à mentionner quelque chose que j'ai adoré du livre, et là, vous m'entendez peut-être un petit peu bafouiller, c'est parce que là, je le raconte spontanément, là, avec le cœur, sans de notes. Là.
Ben oui, vas-y.
L'entraide que dans le livre, le voir dans la communauté à quel point les gens sont là pour aider. Mmh. Il y a tellement de beau qui en découle. Marie-Christine a parlé, entre autres, de sa très, très bonne amie qui l'aide même avec Tinder.
Oui.
Et là, on se transpose à l'époque du livre parce qu'aujourd'hui, sa situation est possiblement différente. Donc oui, à l'époque, d'accord?
Exact.
Donc, elle dit à son amie, et là, je mentionne l'extrait du livre. Là.
Oui.
Des fois, j'oublie que je suis à la radio, je me mets à mimer.
C'est ça.
Marie-Christine dit, « C'est toi qui m'as inscrite sur Tinder quand je suis devenue aveugle. Tu me décrivais les photos. Dents jaunes, petites lunettes, pour être ton grand-père. Il a vraiment l'air d'un tueur en série. »
Oui.
Donc, vraiment, ce livre qui explique à quel point sa charge mentale, les petits détails, l'entraide dont je parlais tantôt parce qu'elle réside dans un immeuble, justement, qui, cet immeuble-là a été mis sur pied grâce à la Fondation des aveugles du Québec. Plusieurs non-voyants résident dans l'immeuble. Elle a fait des belles rencontres avec qui elle a pu partager des confidences, des moments précieux. Et on sent que ça l'a vraiment nourri dans son parcours là où elle réside.
Mm-hmm.
Le filet social, c'est tellement important.
Ben oui, vraiment. Oh oui, c'est en fait, moi, c'est ça qui fait vraiment la différence dans ma vie, là. C'est toutes ces relations-là que j'ai avec des personnes extraordinaires autour de moi. Puis je m'étais rendu compte que, ça me prend des gens. Tu sais, je vais pas arrêter d'avoir des relations avec des amitiés depuis 20-25 ans. Parce qu'ils n'ont pas d'handicap visuel. T'sais, au contraire, moi, c'était super important de garder ça puis de le nourrir autant parce que je me rends compte à quel point c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir des gens autour de nous qui voient.
Et je peux te dire que tu le renvoies tellement bien. Te côtoyer, Julie, c'est comme des étoiles dans le ciel. Là, les mots me manquent. Là. Ce que je veux dire, c'est que te côtoyer, ta joie de vivre est contagieuse. C'est ça que je voulais dire.
Oui,
là.
Oui.
Je me suis comme mélangée en mes synonymes.
Ben oui, c'est ça. Mais non, mais c'est pour ça que j'en fais des blagues parce que c'est vrai, tu sais, à chaque fois qu'on se voit, à quel point tu vas me dire, oh mon Dieu, mais là, Julie, t'es comme une étoile dans ma vie.
Mais c'est vrai.
Puis tu me sors souvent des mots de même.
Oui.
Ça me fait rire à chaque fois parce que je me dis, bon. OK, j'avoue que, tu sais, je pense que j'ai cette façon-là de mettre les gens, tu sais, à l'aise puis créer des belles relations et tout ça. Mais en même temps, on dirait que je me dis tout le temps, il y a une partie de moi qui dit, ah, mais je comprends pas pourquoi, tu sais, à ce point-là, tu sais, qu'est-ce qui fait que je te marque à ce point-là?
Bien, ça va me faire plaisir de conserver une chronique uniquement sur ce sujet-là dans les prochaines semaines. Parce qu'il y a aussi Marie-Christine qui m'a marquée. J'ai vu quelques extraits de l'émission qui s'intitule « Vacances entre filles » avec Marie-Christine et Ève Marie-Morissette.
Oui.
Je rajoute des Marie partout aujourd'hui, moi.
Ève Morissette
qui est en fauteuil roulant.
Oui.
Et ensemble, elles parcourent les routes du Québec et elles font des activités vignobles en Montérégie, même les chutes Montmorency.
Mm-hmm.
Et c'est fascinant à quel point les sens sont mis justement dans...
En fait, c'est parce que là, tout d'un coup, s'il est question d'aller faire du cheval, de l'équitation, bien, c'est sûr que Marie-Christine, elle vit pas ça de la même façon. Il y a tout le côté, tu sais, au niveau, justement, même de ce qu'elle va sentir, de ce qu'elle va entendre, de ce qu'elle va ressentir d'embarquer sur le cheval. Tu sais, elle, c'est même pas qu'elle va le voir, c'est qu'elle va le vivre. Fait que c'est ça qui est bien différent.
Tu le nommes si bien dans la fibrilité, j'ai de la difficulté à finir ma phrase.
Ben oui, je le voyais.
C'est exactement. Et justement, on voit à un moment, Marie-Christine conduit, Ève est passagère. Ben non, c'est l'inverse.
Mais
je voulais voir si tu suivais.
Mais non, mais j'ai dit peut-être, peut-être qu'ils ont fait vivre l'expérience.
Oh, c'est vrai. Mais
ben oui.
Dans le fond, c'est que Eve conduit.
OK.
Puis Marie-Christine est passagère.
Okay.
Oui. Et on va. Et justement, dans cette émission, ce qui me fait réaliser, c'est de voir Marie-Christine, par exemple, aux chutes Montmorency et qui prend connaissance de son environnement, qui explique à quel point elle se sent vulnérable, à quel point ça l'a sorti de sa zone de confort.
Ben là, en même temps, c'est parce que nous, on voit les chutes, hein, tu sais, on va les regarder. Mais là, si on les regarde pas, les chutes, on doit vivre ça autrement. Ça se peut qu'on se sente tout petit de par rapport à ce qu'on va entendre, tu sais, l'espèce de bruit, tu sais, c'est intense, là, le bruit des chutes. On ne sait pas, là, comment qu'on peut ressentir ça si on n'a pas de support visuel. Fait que c'est pour ça, tu sais, tout ce côté-là de vulnérabilité, ben moi, ça, je le comprends très bien.
Ah, j'adore ce que tu me partages. Puis, en tant que personne voyante, d'être exposée à un témoignage comme celui de Marie-Christine et aussi être exposée à son quotidien, ça m'a fait faire de l'introspection sur ma propre perception, justement, pour ne pas reprendre le podcast de Claudie.
De perception. C'est ça. Mais tu vois, c'est super intéressant, Célina, parce qu'au fil des chroniques, on va pouvoir vraiment aborder tout le temps un peu plus, toi, ta relation par rapport à ça. Puis c'est ça que je trouve vraiment super intéressant puis qui va être super enrichissant aussi et pour toi et pour moi et pour les auditeurs.
Oui.
Puis fais juste dire à quel endroit là, on peut retrouver tout ça, là.
Oui, je vous invite sur le site web de Marie-Christine qui se nomme www.mariechristinericignolo.com et je vous invite à me suivre sur Instagram, Célina Fortier. Je vais faire une superbe publication en lien avec Marie-Christine. Je vais mettre tous les liens, justement, qu'on peut retrouver. Et l'Instagram de Marie-Christine est très complet aussi. Pour vrai, coup de cœur professionnel.
Génial. Ben merci beaucoup, Célina, pour une première chronique. C'est super. Et bien, nous, on va se retrouver après la pause. On va aller rejoindre Johan Milaret, qui a un handicap visuel. On le retrouve même en France. On s'en va jaser avec lui tout de suite après la pause.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Mais je suis vraiment contente parce que là, je vais retrouver mon premier invité avec un handicap visuel, hein, parce que comme j'ai dit, j'en retrouve qui ont un handicap visuel, d'autres qui en ont pas. Et bien là, je commence en force avec Johan Milaret. Et c'est vraiment très drôle parce qu'on s'est jasé tantôt et spontanément, j'ai demandé, ben, ça te tente-tu de venir faire une entrevue? Et il m'a dit oui. Et en plus, il est en France et il a, lui, il est 8h30 le soir, hein, je pense. Bonjour, Johan.
Bonjour, Julie. Et bonjour à tous.
Hey, je suis vraiment contente. On fait connaissance en même temps en format entrevue. Mais pour moi, c'est vraiment un plaisir de te mettre en lumière parce que je trouve que tu as un parcours super inspirant, ne serait-ce juste de par ta façon de dire ben, tu sais, oui, j'ai un handicap visuel, mais je vais bien. Je vais bien avec ça. Puis ça, je trouvais ça inspirant. Puis on va juste remonter parce que dans le fond, on aime ça savoir souvent l'handicap, ça vient de où et tout ça, à partir de quel moment. Donc, si on remonte, toi, est-ce que c'est de naissance?
Alors oui, c'est de naissance. Alors, en sachant qu'apparemment, c'est génétique, mais je suis le seul. Ça a dû sauter quelques générations, il faut croire. Je suis le seul de ma famille à l'avoir. J'ai l'amoureuse de Leber, pour être précis.
OK.
J'estime que j'ai de la chance parce que il y a beaucoup de gens pour qui c'est une maladie qui se développe tardivement, c'est-à-dire que les gens perdent la vue tard, okay. vers la vingtaine, et alors que moi, non, je voyais pas dès la naissance. Mmh. Je pense que ça m'a permis de mieux appréhender mon handicap, à mon avis.
Mais juste redire, comment ça s'appelle, l'amoureuse, j'ai-tu bien compris?
L'amoureuse de Lébert.
L'amoureuse?
En gros, c'est une cousine de la rétinopathie, en fait.
OK, OK. Parce que là, on dirait, quand je l'entends, j'entends l'amoureuse. Comme si c'était...
Non, c'est pas mon amoureuse.
Ben non, c'est ça, c'est ça. Mais je trouve que le mot, il fait comme si c'était finalement... tu sais, c'est l'amour de cette maladie-là, finalement.
Ah ouais. Non, c'est pas...
Donc, c'est une cousine de la rétinopathie.
La rétinopathie, ouais, c'est un peu la même. En fait, parce que Lébert, lui, il a trouvé plusieurs maladies, oui. alors qui sont génétiques, hein, toutes. Mais voilà, ils ont plusieurs noms. C'est toujours. Voilà, ils donnent toujours le nom de la personne qui l'a trouvé, on va dire.
Oui. Et cette voilà. maladie-là, dans le fond, ça comment là, qu'elle se manifeste?
Ben, en fait, là aussi, pour le coup, tu disais que je vis bien avec mon handicap, mais en fait, là aussi, je m'estime heureux dans le sens où, déjà, j'ai quand même les perceptions lumineuses,
oui.
ce qui est pas mal. Et ensuite de ça, c'est surtout que j'ai pas, par exemple, j'ai zéro tension dans l'œil, j'ai rien de tout ça, tu vois, c'est... l'œil en lui-même n'a rien, en fait. C'est une maladie. En fait, c'est des cellules qui ne se sont pas développées à fond.
Okay.
Qui fait que j'ai les perceptions lumineuses. Mais par contre, voilà, ça s'est arrêté en cours de développement, si tu veux.
Mais ça veut dire quand même que c'est, même s'il y a une perception lumineuse, dans le fond, ça veut dire que tu n'es pas dans le noir total, mais non. avec la perception lumineuse, mais tu es quand même, on pourrait dire, non-voyant.
Ah oui, je me considère non-voyant dans le sens où, par exemple, je vois pas les couleurs, je vois pas les formes,
je peux
distinguer les ombres, tu vois, par exemple. Mais non, par contre, j'ai pas du tout de... Voilà, ça m'aide pas à voir.
Non, c'est ça. C'est juste que ça permet de savoir si il fait soleil.
Ah oui, ça fait du bien de savoir s'il fait soleil.
Ben oui. Ben oui, mais...
Surtout en vivant dans le sud de la France, Julie. Hein.
En plus, de quelle région de la France?
Alors, en fait, moi, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, mais j'habite à Toulouse. Je suis dans le sud-ouest de la France.
OK. À Toulouse.
Ouais.
Et c'est...
La ville du Cassoulet.
Et la température, ça ressemble à quoi là-bas?
Oh, écoute... En général, quand même, on tourne... Là, en ce moment, on est un peu plus frais. Hein. Il fait, je sais pas, 12-13. Mais l'été, on décolle pas des 30-35 degrés. Hein.
Oh, OK, OK.
Oui.
Mais quand même, des 12-13, nous, quand il fait 12-13, on est quand même bien heureux. Là, en ce moment, on a avec un facteur éolien du moins 20, là, à peu près. Là.
Ah oui.
Oui,
moi, tu sais, je préfère le froid. J'aimerais bien connaître ça parce que moi, je préfère le froid que les très grosses chaleurs. Je te cache pas que, en tant que nordiste, je suis nordiste quand même en France.
Ouais.
Et du coup, là, la grosse chaleur, c'est dur. Hein.
Mais là, justement, là, c'est ça, moi, je me demandais parce que là, bon, ton parcours comme jeune enfant et tout ça, là, comment ça s'est passé? Parce que c'est sûr qu'en France, c'est pas la même culture qu'au Québec, mais le parcours, là, quand on est un enfant, qu'on a un handicap visuel, comment ça se passe au niveau éducatif?
Ah ben, alors en fait, moi, ça a été... Alors, j'estime que j'ai énormément de chance. Mm-hmm. J'ai une mère qui a tout fait pour que je sois autonome. Mm. C'est-à-dire que vraiment, quand elle a su... Parce qu'au début, quand elle a su que j'étais non-voyant, elle l'a très mal vécu, mais dans le sens, c'est dur pour elle d'accepter ça.
Oui.
Mais par contre, elle a tout fait pour que je sois un enfant... épanoui, en fait.
Okay.
C'est-à-dire que très jeune, j'allais en école maternelle, donc l'école maternelle, je ne sais pas comment ça s'appelle au Québec, c'était l'école pour les petits.
Oui.
J'étais en école classique, donc déjà, voilà. Après, j'ai dû aller en école spécialisée à 6 ans.
OK.
D'ailleurs, bon, c'était très dur quand même à 6 ans d'aller en internat. Ça n'a pas été simple.
Mais spécialisé avec des enfants qui avaient des handicaps visuels ou mélangé avec toutes sortes d'handicaps?
Non, non, c'était vraiment nous. Alors là, ça a changé aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais moi, quand j'étais à l'école, il y avait vraiment des écoles spécialisées pour handicap visuel.
OK.
J'ai dû partir, du coup, à Lille, parce que je viens du nord de la France, donc j'ai dû partir à l'école à Lille, donc il était à 1 heure de chez moi. Mm. Donc, voilà, du coup, l'internat à 6 ans, quoi.
Dans le pensionnat?
Oui.
Ah oui.
Le pensionnat, oui.
Et pendant tout ton primaire, secondaire?
Toute ma scolarité.
Oh oui.
Ouais, toute ma scolarité, j'étais okay. Là, j'ai pas eu le choix.
Et à ce moment-là, vu que ça a été tout le parcours, est-ce que ça a été un petit peu plus difficile de. Parce que là, on parle tout le parcours jusqu'à temps d'arriver à 16, 17 ans?
On parle, oui, jusqu'à la sortie du lycée. Après, j'étais à la fac, là j'avais mon appartement, mais toutes ces années-là d'école. Alors non, les premières années sont dures parce qu'on est enfant et que c'est difficile de quitter sa famille. Mais après, plus on grandit, quand on est adolescent, tout ça, ça a des bons côtés aussi, des fois de vivre en collectivité, mais ça on comprend beaucoup plus tard. Mais quand on est enfant, c'est sûr qu'on a envie d'être avec sa famille. Ça a été compliqué au début pour moi. D'ailleurs, je me suis toujours dit, moi, c'était une promesse que je me suis toujours fait, et même petit, hein, que le jour, si vraiment la vie me donne des enfants, je ferai tout pour que ils aillent pas à l'internat à l'âge où j'y suis allé.
Ah oui.
Non, c'était. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ça a vraiment beaucoup changé le système. Parce qu'en France, je pense que c'est comme au Québec aussi. C'est que la plupart des enfants en déficience visuelle aujourd'hui vont dans les écoles classiques.
Oui.
Ils ont un suivi. Ils ont un suivi par un service extérieur.
Mm-hmm.
Mais voilà, c'est plus comme moi quand j'étais scolarisé. Où là, on n'avait pas le choix. C'était, tu voyais pas, t'allais en école spécialisée. Et on cherchait pas trop à comprendre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Enfin, je veux dire, l'internet. J'ai connu la vie sans internet, donc on n'avait pas le choix. C'était l'école. C'était compliqué, par exemple, de tout transcrire les contrôles, les leçons, et voilà.
Et ça, est-ce que ça a fait que t'as développé même des difficultés d'apprentissage, même peut-être même de comportement?
Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Au contraire, par contre, pour l'apprentissage, je trouve que c'était quand même un avantage, l'école spécialisée. Parce qu'on était dans les effectifs, quand même, moi, dans ma classe, on était en moyenne 6.
Mm-hmm.
Donc, ce qui fait que le prof, il avait le temps de s'attarder, justement, sur nous expliquer. Non, on était quand même dans une espèce de petit cocon familial, quoi. Hein. C'était quand même... les professeurs prenaient le temps avec nous... Moi, je suis du genre, tu sais, à voir toujours le verre à moitié plein. Il y a des avantages aussi qui sont importants. Et moi, je trouve que là, l'école spécialisée, c'est une chance pour ça.
À ce niveau-là, et est-ce que ça a aidé aussi au niveau des amitiés, des relations? Est-ce qu'il y a eu ça qui a aidé, vu que vous étiez tout le temps ensemble, finalement?
Alors, oui. Alors, je vais te dire oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que à l'intérieur de l'établissement, on était une petite famille, quoi. On se voyait tout le temps, voilà. Par contre, moi, heureusement, je suis quand même assez communicant, heureusement pour moi,
mm-hmm.
parce que quand on sort de l'école spécialisée, c'est compliqué. C'est un peu, tu te retrouves comme ça dans le grand bain, entre guillemets, dans le monde extérieur. Parce qu'il y a quand même un choc quand tu sors de l'école spécialisée et que tu vas à l'université classique. Hein.
Ça, oui.
C'est dire que là, je me suis retrouvé dans des classes, dans des amphis avec plus de 100 étudiants et tout, sortais d'une classe de 6, ça fait drôle quand même.
Oui, oui. Mais est-ce que quand tu étais à l'adolescence, tout ça, tu savais un petit peu qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Comme là, tu as parlé tantôt que tu es allé à la fac, donc pour nous, cégep, université, là.
Ouais, alors j'en avais une idée, j'avais pas de conviction vraiment de métier.
Ok.
Je savais par exemple que j'irais jamais en scientifique.
Mm-hmm.
J'étais trop mauvais en maths pour ça.
Comme beaucoup, moi-même, j'ai fait mes choix en fonction de s'il y avait des mathématiques ou pas. Là. C'était ça. Ouais, quand j'ai commencé, je me suis dit, ça me prend un programme qui n'a pas de mathématiques.
Ah ben ouais, non, mais moi, je pense, je vous dis que les profs de maths doivent encore s'arracher les cheveux de penser à moi en cours.
Ah oui, hein?
Ah non, j'étais très nul en maths. Vraiment, ça a commencé tôt, que j'avais pas les bonnes notes, j'y comprenais rien. Puis la géométrie, faire des dessins là sur des planches. Ah non, vraiment les maths et même les sciences, hein, c'était vraiment pas pour moi.
Et même avec, on imagine avec un handicap visuel, là, ça ajoute beaucoup de complexité, même juste à la notion de mathématiques.
Ouais, exactement. Et surtout dans tout ce qui est côté géométrie, justement.
Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est très visuel.
Faire des dessins ou alors les équations. Qu'est-ce que j'ai galéré aussi?
Ah, c'est sûr. Et ça fait que finalement, tu as choisi un programme qui n'avait pas de mathématiques, donc tu es allé dans quoi?
Je suis allé en littéraire.
OK, bon.
J'ai passé un bac L. Je sais pas c'est quoi l'équivalent au Québec, c'est donc plutôt vers les langues étrangères, tu vois.
OK. Puis là, à ce moment-là, t'as trouvé parce que des fois, on va étudier, mais après ça, se trouver un travail, quand on a un handicap, c'est un peu plus difficile. Donc toi, est-ce que ça s'est bien fait, la transition, ou t'as eu des défis par rapport à ça?
Alors, en fait, quand je suis allé à l'université, je me suis retrouvé face à un gros problème.
Oui.
C'est que je me suis dit, mais je vais à la fac, mais finalement, pourquoi faire?
Ah.
Parce que mon idée première, c'était d'être dans le journalisme.
Mm-hmm.
Mais, alors je ne sais pas comment ça marche aussi au Québec, mais en France, le problème, c'est que si tu veux une bonne école de journalisme, c'est cher. Vraiment, c'est pas donné. C'est très cher. Et moi, c'est vrai que là, je me suis dit, non, mais je me voyais pas, tu sais, faire un crédit à la banque à 20 ans, ça ne me disait rien.
Mm.
Donc, j'ai cherché ma voie et j'ai complètement changé de voie.
Ah oui?
J'ai repassé... Ah ouais, complètement. Mais alors, en fait, j'ai fait du journalisme en amateur. Mais parce que j'adore ça, j'ai fait de la radio amateur, j'ai fait... Voilà. Mais j'ai vraiment décidé carrément de changer de voie. J'ai passé l'équivalent d'un... En fait, comme si je passais un deuxième bac.
Okay.
Ce coup-là, un bac professionnel.
Ouais.
Pour entrer en fait dans les métiers du téléphone, mais pas le standard, mais le conseil client. Et alors par contre, je voulais pas faire de vente du tout, parce que je suis vraiment pas vendeur dans l'âme. Donc j'ai toujours plutôt travaillé dans le social. J'ai travaillé pour un bailleur HLM, tu sais, les logements à loyer modéré.
Oui.
Pour les personnes en difficulté.
Oui.
Donc j'ai fait ça pendant... Alors j'ai fait 3 ans de prise d'appel et après j'étais superviseur donc en communication dans cette boîte-là. C'est-à-dire que je m'occupais que les conseillers clientèles aient des bons discours au téléphone, que tu sais, je m'occupais beaucoup des formations comme ça. Et puis là, aujourd'hui, alors là, je fais beaucoup de... Je travaille beaucoup pour les associations. Mais vraiment à titre par exemple là aujourd'hui je travaille pour une association parce que en France on a malheureusement beaucoup de personnes âgées isolées dans ce pays. C'est très triste ça d'ailleurs. Profitez de vos familles, les auditeurs, hein, parce que c'est important. Et du coup, j'appelle régulièrement des personnes qui sont isolées pour leur faire la conversation, pour voir s'ils vont bien, pour apporter de la bonne humeur aussi, hein, parce que voilà.
Une relation d'aide finalement.
Exactement. Ouais.
Mais c'est intéressant parce que là, dans le fond, c'est comme si les communications sont dans ta vie, mais différemment.
Complètement, en fait, j'ai voulu utiliser ce que je savais faire, mais pour aider tant que je peux certaines catégories de personnes.
Mm-hmm. Puis ta relation avec le Québec, parce que là, on dit, OK, mais là, il est en France, tout ça, mais tu as une relation aussi avec le Québec?
J'ai une relation extrêmement forte avec le Québec.
Ben oui, c'est ça, comment ça?
Alors déjà, il faut savoir que quand j'étais... très jeune, j'ai toujours eu un rêve de pays, c'est d'aller au Canada.
Oh, mais pourquoi? Parce qu'il y avait de la neige?
Non, mais je sais pas, j'ai toujours aimé. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'accent. Il faut savoir que je le trouve craquant, cet accent québécois.
Ah oui?
Et puis j'ai toujours aimé Céline Dion. Hein?
Ah,
voilà.
Oui. Ben oui.
Et du coup, j'ai toujours rêvé d'aller au Québec, et puis aussi parce que j'aime le hockey. Hein?
Oui.
Et je suis fan du Canadien, et du coup, j'ai toujours voulu y aller, et j'ai réussi en 2015 à réaliser ce rêve, à passer 2 mois à Montréal, et en 2018 aussi, j'ai passé 2 autres mois.
Ah oui, deux fois 2 mois.
Ouais, 2 fois 2 mois, okay. Et j'ai, en plus, le deuxième voyage, j'ai voyagé aussi dans le Québec. Je suis allé à Chicoutimi, je suis allé, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Je suis allé, parce que j'adore la ville de Québec aussi.
OK, mais quand on parle du voyage, en général, le voyage, on voit ça, c'est visuel, hein? Tu sais, c'est exemple, si on parle de Québec, ben là, c'est les infrastructures, là, tu sais, c'est de quoi ça a de l'air Québec. Bon, mais quand on parle de voyage avec un handicap visuel, tu sais, même juste Montréal, comment ça se passe?
Alors, en fait... Oui, c'est vrai que quand les gens ont la vue,
oui.
L'aspect qui va revenir le plus souvent, c'est les paysages.
Ben oui.
Voilà. Mais quand tu vois pas, ce qui sort de ça, c'est l'ambiance générale.
Okay.
Tu sais, le fait de se fondre dans la foule. Par exemple, moi, je me verrais pas faire un voyage et être dans quelque chose d'organisé. Par exemple, d'être dans un club
Med
ou quelque chose. Non, ouais, pour moi, c'est une aventure. C'est aussi quelque part repousser les limites de son handicap que de voyager par soi-même, que de découvrir des gens, que de... Voilà, et le Québec, alors pour le coup, je suis allé chez des amis québécois, mais j'ai fait beaucoup de choses seul. Parce que du coup, j'étais là 2 mois, je suis venu de septembre à novembre. Eux, ils travaillaient la journée, donc moi, je m'occupais, je sortais dans Montréal. Par exemple, j'adore nager, j'allais à la piscine tout seul. Je faisais ma vie vraiment à Montréal, quoi. Et j'ai fait plein de choses, et ça m'a permis quand même de découvrir plein de monde, de me fondre dans la... quelque part, 2 mois, ça te permet quand même de vivre, d'avoir une idée de la vie, comment elle se passe.
Ah ben oui, ça c'est sûr, mais ça reste quand même bien là que à ce moment-là, t'arrives puis t'es dans une autre, un autre pays, une autre ville. Là, tu t'es là, là. Comment tu fais pour savoir qu'il y a une piscine à 4 coins de rue? Parce que souvent, on va le savoir qu'il y a une piscine parce que c'est soit qu'on a marché puis qu'on a vu qu'il y avait une piscine visuellement. On a dit, tu sais, il y a une piscine. Ou bien on fait une recherche sur Internet puis on dit, je cherche une piscine. Et là, mais encore là, c'est visuel. Comment ou c'est quelqu'un qui nous le dit, comment t'en viens à savoir qu'il y a une piscine à côté?
Là, j'avais une idée plus précise que ça, puisque je voulais un grand bassin, tu sais, les bassins de 50 mètres.
Oui.
Alors, vous parlez en pied, donc je sais pas combien ça fait, 50 mètres en pied.
Je ne sais pas, 100 mètres.
Et en tout cas, ce que je voulais faire, c'est justement aller à la piscine olympique de Montréal.
Oui.
Et du coup, j'ai regardé sur Internet, surtout, la première chose, quel est le métro le plus proche?
Mais oui, mais justement, aller en métro... En ayant un handicap visuel,
oui.
Parce que c'est ça aussi, c'est se déplacer dans le métro. Comment ça se passe?
Ah, c'est quelque chose que j'ai vraiment que je fais avec facilité parce que je suis habitué en fait à Paris, je le fais, à Toulouse, je le fais. Enfin, le métro, pour moi, si tu veux, c'est un métro. Donc si je vais à l'étranger et qu'il y a un métro, ça sera la même chose. Je me renseigne sur la direction, sur le trajet que j'ai à faire précisément. Puis après, je fais mon itinéraire, en gros, puis je le fais, quoi.
Mais tu te déplaces avec une canne blanche? C'est-tu la même chose en France?
Oui, j'ai une canne blanche, oui.
Ouais. OK. Ça veut dire que tu te déplaces avec ta canne blanche, mais là, quand tu arrives, parce que même moi, j'ai encore un résidu visuel, puis c'est pas rare, là, des fois, là, que je me trompe de sortie parce que j'arrive pas à bien voir... quelle est la sortie. Mais toi, à ce moment-là, est-ce que c'est parce que, justement, tu demandes beaucoup, tu poses des questions?
Ah, oui, bien sûr. Par exemple, la première fois que je suis allé à la piscine, pour citer cet exemple-là, je suis arrivé à la station, j'ai demandé, excusez-moi, vous savez si c'est la bonne sortie pour aller vers la piscine olympique, tout ça, quelqu'un m'a confirmé. Oui, bien sûr. Puis après, tu sais, quand on a un handicap visuel, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à paniquer parce que ça peut faire peur.
Mm-hmm.
Mais je veux dire, se perdre, ça fait partie de la vie quand on ne voit pas.
Mm-hmm.
Se perdre, il faut juste ne pas paniquer.
Oui.
Se dire que de toute façon, on trouvera toujours quelqu'un. Mm-hmm. qui va pouvoir nous indiquer. Moi, ça m'est toujours arrivé, et même dans le pire des cas, une fois je me suis perdu quelque part, il y avait personne autour de moi, parce que j'ai fait, j'ai été au courage, entre guillemets, j'étais toqué à une maison. Hein. Mmh. J'étais frappé chez quelqu'un, je dis, excusez-moi, de vous déranger, je suis dans quelle rue, là?
Oui! Voilà. Bien ça, Johan, c'est vraiment une grande leçon, hein, ce que tu es en train de dire, parce que c'est vrai qu'on va se perdre quand on a un handicap visuel. Ça arrive souvent que je me perds, et donc ma première fois sérieuse que je me suis perdue, et j'ai fait exactement ce que tu as dit de ne pas faire. J'ai paniqué, mais paniqué, pleuré, tout ça. Là. J'ai tout fait ça en même temps, puis j'étais quand même à Montréal, là. J'étais dans ma ville. Mais j'étais perdue. Je ne savais plus où j'étais. J'avais plus de point de repère. Mais on dirait que ça arrive une fois. Puis là, après ça, toutes les autres fois que ça m'était arrivé, ben, j'ai pas paniqué.
Mais oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, que les gens oublient, je sais que c'est pas facile. Vraiment, et sûrement qu'il y a des gens qui vont se dire, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mm-hmm. En fait, ce que je veux expliquer, c'est que la panique empêche de réfléchir.
Exact.
Plus tu paniques, plus tu prends la mauvaise décision.
Mm-hmm.
C'est ça. Alors que quand tu te poses, même t'en rigoles, limite. Moi franchement, ben quand je me perds, souvent, j'en rigole.
Hein. Oui, oui.
Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai atterri ici?
Mmh.
Et puis, j'en rigole. Et puis, après, tu reviens au point de départ, t'essaies de comprendre ce qui se passe autour de toi.
Oui.
Et les idées te viennent, en fait.
Oui, c'est ça. Mais là, tu peux trouver des solutions plus facilement.
Mais oui.
Mais ça, je trouve ça vraiment super intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Là. Et Johan, ben là, moi, je voulais savoir un petit peu en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour toi là? Est-ce que tu vas revenir au Québec bientôt? Est-ce que ça, c'est dans les plans?
Ah, c'est dans les plans. Oui, alors au départ, mon plan, c'était 2025 et ça se pourrait.
Mais 2025, c'est là, c'est cette
voilà,
année.
C'est là, c'est demain.
C'est ça. Est-ce que tu vas en profiter pour revenir quand il y a des matchs du Canadien, vu que tu disais que tu étais un amoureux du Canadien?
Ben, en général, ouais, j'essaie de venir. Ma période préférée, tu vois, comme je suis venu deux fois là, j'aime bien. C'est septembre-novembre, tu vois.
OK.
J'aime bien ces moments-là, parce qu'il fait ni trop chaud, ni trop froid.
Oui.
voilà, donc ce sera probablement ça. Mais j'aimerais bien quand même connaître un jour l'hiver au Québec. J'aimerais bien.
Mais c'est ça, parce que dans le fond, t'as pas connu l'hiver encore au Québec. Tu sais pas, Montréal, il y a l'air de quoi quand il y a des bancs de neige.
Ah oui. Alors par contre, la différence, Julie, que j'ai vraiment... Là, pour le coup, c'est un choc. Quand tu vois pas et que tu circules en France et quand tu viens à Montréal,
mm-hmm.
c'est que, pareil, tu vois, pour les traverser, c'est complètement différent.
Ah oh oui, hein?
C'est pour circuler dans les rues. Moi, une fois, par contre, il faut vraiment s'habituer parce qu'il y a des très grosses traversées à Montréal.
Oui.
Et pour garder une ligne droite, c'est pas facile.
Non, c'est
ça. Par contre, moi, j'ai déjà fait des diagonales, hein, je te le dis.
Oui, ben oui, des diagonales, c'est sûr. Mais ça veut dire, à ce moment-là, ça demande, faut être encore plus préparé à ça, puis que ça soit sécuritaire le plus possible.
Ouais, mais après, voilà, c'est vraiment un choc culturel. Et par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en général, les trottoirs sont larges, dégagés.
Ouais.
Alors qu'en France, tu trouves des voitures sur les trottoirs, des poteaux partout. Tout ce qui est, c'est sympa de circuler. Notamment, là, je suis à Paris actuellement.
Oui.
C'est très sympa de circuler dans Paris, là, avec des voitures partout sur les trottoirs, des poteaux, des boîtes aux lettres en hauteur. C'est bien.
Mais tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est comme tu dis, à Paris, oui, il n'y a pas de neige, mais il y a des voitures sur les trottoirs. Ça amène d'autres défis. Là, en ce moment, à Montréal, il y a de la neige, il y a des bancs de neige, il y a toutes sortes de défis à ce sens-là, qui sont complètement différents des tiens, mais que moi, dès qu'il y a de la neige, la canne blanche, essayer de passer d'un trottoir, c'est assez périlleux parce que la canne, elle rentre dans le banc de neige, donc c'est vraiment plus difficile. Oui. Mais en même temps, il n'y a pas de voiture, tu sais, sur les trottoirs. Fait que, tu sais, je pense que de part et d'autre, il y a des défis, mais c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Bien, Joanne, ça a été un immense plaisir de faire ta connaissance comme ça, et j'espère que, ben, en tout cas, du moins, si tu viens à Montréal, bien, envoie-moi un petit coucou pour me dire que tu t'en viens faire un petit tour, puis on pourra aller se promener dans les rues de Montréal. Ça va me faire plaisir.
Ah ben avec grand plaisir, Julie. Franchement, oui. Ben déjà, bon, maintenant, on est en contact, donc on pourra parler. Puis évidemment, oui. bien sûr que ça va de soi que le jour où je viens au Québec, on ira se balader.
Ben oui. on ira se balader, puis ça va me faire du bien aussi, tu sais, de connecter avec ta belle joie de vivre, parce que je me reconnais là-dedans. Mais tu sais, c'est le fun quand on est accompagné d'une autre personne qui voit la vie avec le verre à moitié plein. Ben, Joanne, y a-t-il un endroit où est-ce que, tu sais, si les gens ils veulent savoir finalement t'es qui et tout ça, c'est sur ton Facebook qu'on va?
Ouais, plus mon Facebook, ouais, bien sûr. C'est mon prénom et mon nom, hein, vous me trouvez assez facilement. Donc, Joanne Millaret, avec un seul L, hein, parce qu'il y en a qui en mettent deux.
Ouais.
Hein, avec ET au bout, vous me trouvez facilement. Et bien sûr, on peut discuter. Et même, hein, si les auditeurs, parce que ça peut arriver.
Oui, ben c'est ça, exact. Ben merci beaucoup, Joanne. À très bientôt.
Merci, Julie.
Merci, bye bye. Eh bien, moi, je vous remercie d'avoir été à Mission Vision pour cette première. Merci mes invités. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde!